Europe 1,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour tout le monde.
Bienvenue dans votre émission Bien fait pour vous, celle qui prend soin de vous tous les jours en direct jusqu'à midi. Et ce matin Mélanie, quel sera notre grand dossier du jour?
Aujourd'hui on va se poser la question suivante, faut-il réellement faire la guerre au sucre dans notre assiette? Plus précisément, on va s'intéresser à notre courbe glycémique, notre taux de glucose. Ce serait le geste le plus efficace que nous puissions faire pour notre santé. On va vous présenter une nouvelle méthode qui permettrait d'éviter les fringales, la fatigue, la prise de poids, voire même le vieillissement prématuré, rien que ça. Il s'agit de la glucose révolution et pour en parler, nous recevrons Jessie Inchauspé. Elle est biochimiste, chercheuse en nutrition, ainsi qu'Annabelle Chakmes, journaliste culinaire.
Et ensuite, Mélanie, à 11h45, ce sera notre séquence tendance avec nos deux chroniqueurs du jour qui sont déjà mis à l'heure des vacances et de la plage. Sophie Braffman, notre experte mode, on va nous faire découvrir ce matin les tendances maillot de bain pour cet été 2022. Et puis, pour finir ce tour de table, Benjamin Lévesque, notre journaliste beauté, nous présentera les crèmes solaires nouvelle génération. Vous verrez, elles ne collent plus, ne laissent plus de traces blanches sur la peau. Vous trouverez celle qui vous convient, j'en suis certaine. Bien fait pour vous, c'est parti.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1, bienvenue dans votre émission Bien-être Feel Good. Pendant une heure, on va comme tous les jours tenter de vous faire du bien, tout particulièrement si vous avez besoin de perdre quelques kilos. Notre question du jour, la voici, faut-il réellement faire la guerre au sucre dans notre assiette?
Et oui, on va vous expliquer ce matin comment agir, en tout cas sur votre courbe glycémique, car savez-vous que près de 90% de la population souffrirait d'un dérèglement du glucose, et la plupart des gens justement l'ignorent. Alors on va vous aider à savoir si cela vous concerne dans quelques minutes avec nos invités. Et pour démarrer, on va voir ce qu'en pensent les gens dans la rue grâce à vous, Clément Lanoux. Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde.
Il est comment le taux de glucose ce matin, Clément?
Il est au top. J'ai rien mangé ce matin. Alors moi, mon rôle dans cette émission, c'est d'arriver, de partir avec un micro et d'introduire un petit peu le sujet du jour. On m'a dit aujourd'hui, on va parler de glucose. J'ai dit, ah, génial.
C'est quoi?
C'est du sucre. Donc voilà, c'est 99% des Français, quand on leur demande c'est quoi le glucose, répondent c'est du sucre. Alors j'ai posé une deuxième question et dans la rue j'ai demandé à votre avis c'est quoi la différence entre le sucre et le glucose? Est-ce que c'est vraiment la même chose?
Le sucre pour moi c'est plus le sucre en soi, ce qu'on achète, alors que le glucose ça peut être du sucre mais sous différentes formes.
Le glucose c'est... Non c'est pareil mais je crois que le glucose c'est un nom plus compliqué, c'est le nom scientifique, un truc du genre.
Alors le glucose on le trouve dans les plats. Et le sucre, bah, le sucre de canne, hein, ou le morceau de sucre, le sucre en poudre, le sucre, le sucre, quoi.
Voilà pourquoi on fait appel à des professionnels dans cette émission.
C'est bien de faire une émission, ouais.
Comme invité. Alors justement, après, j'ai trouvé des ados. Tiens, une jeune ado, tiens, elle a l'air de s'y connaître. Alors, il se passe quoi dans le corps quand il y a trop de sucre dans le sang?
Tu grossis, non? Au bouton, sur le visage et tout, non?
Bon, peut-être des boutons, peut-être. Du sucre, on ne sait pas trop. Et il y a peut-être des bonnes réponses, on va en parler tout à l'heure. Mais justement, alors, le grignotage, ça fait partie des gros soucis. Manger sucré, ah, c'est pas bien. Il faut manger salé quand on a envie de faire une petite pause. On en parlera sûrement tout à l'heure. Mais il y a des techniques, justement. Quelle est votre petite technique pour ne pas grignoter? Je pensais faire un bon truc pour la santé. Finalement, je ne suis pas sûr.
Fumer une clope.
Oh non.
Moi, ça me coupe l'appétit.
Moi, c'est faire la sieste. Dormir.
Boire beaucoup de thé.
Ouais. Quand j'ai faim, un verre d'eau, ça bouche le trou.
Voilà. Vous prenez une tranche de saucisson, je crois.
Une tranche de saucisson, vraiment, ça bouche tout, c'est incroyable. Alors justement, c'est quoi votre petit péché mignon? C'est la question que j'ai posée aux Français.
Foie gras, pour, voilà, pour sa texture, pour le côté festif.
Les sushis.
Alors, en hiver, moi, la raclette.
Moi, plus simple, je dirais plutôt des pâtes, parce qu'il y a plein de sortes. On peut faire carbonara... On peut tout faire avec du fromage.
Il y a du boulot.
Le taux de glucose est élevé, là, je crois.
Il y a du boulot, mais c'est des gens que j'ai pris complètement au hasard. Les Français sont gourmands, on n'y peut rien. Et puis, il y a cette dame qui m'a même expliqué pourquoi son péché mignon, c'était ce dessert qu'on aime tant, parce qu'il y a tout dedans.
Moi, ouais, c'est le baba au rhum. Ah. C'est sucré, il y a de l'alcool, il y a tout ce qu'il faut pour moi.
Eh ben voilà, bon, place aux spécialistes.
Pas
s'il
sûr
vous plaît.
Qu'il sera dans le menu du jour. Non, on va voir ça. Merci beaucoup, Clément, pour ce petit reportage. Maintenant qu'on est bien dans le thème, on va détailler les choses avec nos invités. Bonjour, Jessie Inchauspé.
Bonjour.
Alors, vous êtes biochimiste, chercheuse en nutrition et l'auteur du livre Faites votre glucose révolution aux éditions Robert Laffont. Avec nous également Annabelle Chakmes. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes journaliste culinaire et l'auteur du livre Diabète et coup de fourchette. Vous étiez déjà venue nous en parler il y a quelques mois, qui est paru donc aux éditions Le Duc. Alors Jessie, je reviens vers vous, on va reprendre un peu les choses du début. Manger, c'est pas seulement un plaisir, c'est une nécessité hein, pour être en forme, mais parfois la nourriture, elle a des effets indésirables, et vous dites que c'est finalement sur le glucose que tout repose, c'est lui qui affecterait donc notre bien-être physique et mental. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ?
Bien sûr. Alors, il s'avère donc que 90% de la population non diabétique a un taux de glucose déréglé. Et la plupart d'entre nous ne le savons pas. Mais on connaît bien du coup les conséquences physiques et mentales. Donc, d'un point de vue physique, qu'est-ce que ça fait trop de glucose ? Ça fait prendre du poids, ça fait avoir des rides, de l'acné, et puis ça cause des problèmes d'infertilité par exemple. Ensuite, niveau mental, trop de glucose, ça crée des fringales. Ça crée des coups de mou, ça peut exacerber des troubles mentaux et ça fatigue. On est fatigué.
Mais dites-moi, Jessie, qu'on soit bien sûr de ce dont on parle, le glucose, c'est quoi ? C'est du sucre ou pas exactement ?
Rien compris.
Qu'il y en a dans le baba au rhum.
Alors oui, donc en fait, le glucose, c'est une molécule qui se trouve à la fois dans les féculents et dans les aliments sucrés. Okay. Mais l'idée ici, c'est pas d'arrêter de manger des féculents et des aliments sucrés. Moi, j'adore les pâtes et le gâteau au chocolat, donc ça, je garde. Ce que j'ai réussi à faire, en fait, rassurée, tout le monde se calme, c'est bon, on est ok. En fait, ce que j'ai réussi à faire, c'est de synthétiser les études scientifiques, toutes récentes, qui nous montrent comment manger des féculents et des aliments sucrés sans dérégler notre glycémie. Donc, on garde le plaisir, on évite les conséquences.
Bon, Annabelle, tant qu'on n'est pas diabétique, c'est votre cas, hein, vous étiez venue nous en parler pour votre bouquin quand il était sorti. On entend rarement parler quand même de glucose.
Et c'est dommage.
Et voilà. Oui. Et pourtant, il est presque partout dans notre alimentation.
Il est partout. Il est partout. On en avait parlé, mais moi, la vraie découverte, c'était pas tant tout ce qui était sucré, entre guillemets, c'était vraiment les glucides présents. Moi, mon drame, ça a été d'arrêter de manger des pizzas ou d'en manger différemment. Et
c'est pas sucré, les pizzas.
Les pizzas, les pâtes, le riz, les sushis, ouais. Quand la dame parlait de sushis.
Le riz des sushis.
Le riz des sushis, pour moi, c'est une catastrophe sur mon organisme à moi.
Mais dans les sushis, il y a du sucre aussi. C'est pas que du riz, il rajoute du sucre, en fait.
Et les glucides du riz. Plus les glucides qui rajoutent en plus, ça me tient une journée.
Donc ça veut dire que quand vous mangez des sushis, c'est comme si vous aviez mangé un tiramisu ou quoi ?
Deux.
Ah oui.
Ah carrément. C'est fou.
C'est vrai, on a l'impression que c'est sain le sushi comme ça. Enfin, ça
non, pas du tout. Enfin, c'est sain parce que c'est pas. Mais sur un diabétique,
c'est une bombe
ça
n'a
pas
sucre,
le même impact. Et comme le disait Jessie, faut faire très attention, même quand on n'est pas diabétique. On peut. En fait, son livre, c'est un vrai mode d'emploi de.
Vous l'avez lu, vous l'avez apprécié, je crois.
Je l'ai pas lu, c'est ma bible. Il est posé sur ma table de nuit.
Mais alors, Jessie, ce glucose, mais il a quand même. Parce que là, on en parle mal, comme si c'était un mauvais élève. Mais j'imagine qu'il a quand même une utilité. On peut pas vivre sans sucre.
Non, bien sûr. Donc, chacune de nos cellules a besoin de glucose pour sa fonction. Donc, les cellules de vos yeux pour me regarder, les cellules de nos mains pour bouger, les cellules du cœur pour battre. Mais le problème, c'est un peu comme si on donne trop d'eau à une plante, la plante se noie. Ou si on a trop d'oxygène en tant qu'homme, on tombe dans les pommes, trop de glucose crée des conséquences dans le corps, en fait. C'est trop d'une bonne chose.
Et le glucose, je crois qu'on l'obtient via les plantes, c'est ça, hein ?
Alors, en fait, le glucose est créé sur la Terre grâce à la photosynthèse. Donc, les plantes fixent le carbone de l'air et le transforment en glucose. Et ensuite, les plantes s'en servent soit pour leur énergie, soit pour se créer, en fait.
Donc, un baba au rhum, en fait, c'est une plante, c'est ça ?
Alors, non. Non.
Mais Jessie, dites-moi, si on ne mange que pas de végétaux, comme les animaux carnivores, ou même si nous, les humains, on suit un régime cétogène, un régime sans sucre, on meurt ou alors notre corps fabrique quand même du glucose ?
C'est une très bonne question parce que donc chaque cellule a besoin de glucose, mais si on n'en mange pas, si on ne mange pas de plantes, qu'est-ce qui se passe ? C'est tellement important que notre corps peut le fabriquer en interne. Et qui plus est, certaines cellules peuvent commencer à brûler des graisses au lieu de brûler du glucose.
Voilà.
Donc c'est pour ça, je rajouterais même, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de manger du sucre pour vivre. On a entendu ça, il faut manger du sucre pour l'énergie,
pour
c'est
le
important
cerveau.
Le sucre.
Mais en fait, on le fabrique.
On le fabrique si on ne mange pas. Donc en fait, c'est vraiment pas la peine. C'est vraiment juste pour le plaisir. Les féculents et les sucres, c'est pour le plaisir. Donc je vais vous apprendre à les manger sans trop de conséquences.
Eh bien merci à toutes les deux, vous restez évidemment avec nous. On vous dit tout ce matin sur la glucose révolution. Tiens, si on s'y mettait tous, Mélanie est pas seule, pas uniquement d'ailleurs dans le but de perdre nos kilos superflus, car apparemment surveiller de près notre courbe glycémique permettrait aussi de retrouver une énergie débordante. Et ça, on adore. On va donc vous expliquer comment mettre en pratique cette nouvelle méthode qui fait du bien à notre organisme. Ce sera dans quelques minutes. En attendant, restez bien avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
De retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good, mieux vivre. Ce matin, on vous pose cette question. Faut-il réellement faire la guerre au sucre dans notre assiette ? Alors, pour nous aider à lancer cette glucose révolution qui peut nous changer la vie, dit-elle, elle est toujours avec nous, Jessie Inchospé.
Vous êtes biologiste et chercheuse en nutrition. Avec nous également dans le studio, Annabelle Chakmes, journaliste culinaire. Alors Jessie, on va reprendre avec vous. Vous écrivez que la plupart des personnes ont finalement un dérèglement de la glycémie que la plupart d'entre nous l'ignorons. Mais ça ne veut pas forcément dire pour autant qu'on est en surpoids. C'est quoi les signes pour savoir qu'on est un trop plein de glucose?
Oui, tout à fait. Donc la prise de poids n'est qu'une seule des conséquences des pics de glucose. Et en fait, en fonction de votre ADN, vous allez pouvoir prendre plus ou moins de poids parce que la prise de poids, c'est une façon pour votre corps de se défendre contre les pics de glucose. Quand il y a trop de glucose dans l'organisme, le corps prend le glucose et le met dans les cellules adipeuses pour vous protéger en fait de l'excès. Donc ça, c'est juste une des conséquences. Les autres symptômes qui sont très communs sont les fringales, donc envie de sucrer après les repas ou au milieu d'après-midi, les coups de mou, besoin de café le matin, l'après-midi, un mauvais sommeil, des problèmes de peau, donc vieillissement, rides, acné, etc. Troubles mentaux, donc si vous avez un terrain dépressif ou anxieux, ça peut les exacerber. Infertilité, ovaires polykystiques, ménopause difficile. Et ensuite, à long terme, on a des choses comme le développement du prédiabète, du diabète de type 2. On crée un terrain plus favorable aux choses comme le cancer, la maladie d'Alzheimer. Donc ça vraiment, ça affecte toutes les choses.
Mais dites-moi, donc il y a pas, comment je peux m'en rendre compte? Parce que
ce qu'elle a décrit, je suis sûre qu'il y avait un des symptômes qui vous concerne.
J'en ai eu 1000. Bah ouais. Surtout que on s'en parlait pendant la publicité. J'ai animé longtemps une émission
de gâteaux,
de concours de gâteaux. Et franchement, effectivement, tous les symptômes dont vous parlez, j'en ai vécu pour beaucoup moi-même. Mais comment on sait autrement, nous, parce qu'on peut avoir de l'acné et pas faire le lien avec le taux de glucose.
Mais exactement ça, le problème, c'est que les gens ne font pas le lien. Ils pensent que c'est normal d'être fatigué, d'avoir faim tout le temps, d'avoir des envies de sucre. On pense que c'est normal, on vit avec. Quelquefois, on en a honte. Quelquefois, on essaie de l'ignorer, en fait. Mais vraiment, il faut penser à son glucose. Parce que si on lisse la courbe de la glycémie, tous ces symptômes s'en vont. Et c'est un petit peu comme découvrir une autre vie, totalement, vraiment. C'est, on passe de l'autre côté du miroir, en fait.
Vous avez mangé beaucoup de sucre, vous, dans votre vie?
Ah mais oui, beaucoup. Moi, tous les matins, je mangeais une crêpe au Nutella.
Wow.
Quand j'étais jeune, ouais. Et donc, à midi, enfin à 11h même, j'étais épuisée, j'avais faim. Oh, mais j'avais faim, j'avais mal au ventre tellement j'avais faim. Et je pensais que c'était normal. Mais en fait, il s'avère que le sucre au petit-déj, ça fait un gros pic de glucose. Et ça me causait des problèmes toute la journée après.
Mmh. Annabelle, alors là, ce qu'on vient de décrire avec Jessie, ça concerne le monsieur et madame tout le monde, pas tout forcément les patients diabétiques. Alors vous souffrez de cette pathologie. Justement, les pics de glycémie, enfin ce qu'elle décrit, ces patients diabétiques, vous les connaissez
Je ne fais que ça. En fait, moi, j'ai très peu d'hypoglycémie. Je suis plus en hyperglycémie. Et je connais que ça, c'est ma vie, c'est la gestion de ma vie en fait.
Ce qu'elle a décrit dans les symptômes, quand on a un pic de glycémie, une personne diabétique, elle ressent quoi?
Moi j'ai très très mal à la tête, par exemple, j'ai des gros maux de tête.
Et dans les chutes, même si vous en vivez
Alors dans les chutes, je me sens un épuisement intense d'un coup. Et pareil, maux de tête aussi. Donc maux de tête, en règle générale, chez moi, c'est mauvais signe.
Alors vous contrôlez forcément votre glycémie au quotidien, mais de par
quelle
manière?
Mais j'essaye de pas en être dépendante non plus. C'est-à-dire que je reconnais des les maux de
tête. Vous écoutez votre corps, c'est ça.
Je m'écoute beaucoup plus et je veux plus dépendre de cette glycémie parce que quand on est diabétique, ça devient un peu compliqué.
Mais comment vous faites pour vous checker entre guillemets?
Je me check tous les matins, donc je sais la tendance du jour. Ça veut dire soit c'est très cool et yalla, on y va, soit c'est un peu compliqué et on va faire attention.
Et ensuite vous écoutez.
Ouais, c'est ça. Tous les matins, je m'écoute.
Jessie, vous êtes allée encore plus loin, vous, parce que bon, donc vous n'êtes pas diabétique, vous avez même pourtant porté un capteur de glycémie en continu. Ah ouais. C'était le moment où vous dites, enfin pu communiquer en direct avec votre corps. Qu'est-ce que vous avez observé pendant cette expérience alors?
Alors, le moment qui a fait tilt pour moi, c'est quand j'ai remarqué qu'un pic de glucose pouvait provoquer des troubles mentaux que j'avais développés en tant qu'adolescente après un accident. Et ça m'a vraiment choquée, parce que j'ai enfin compris pourquoi je souffrais, en fait. Une des causes de mes souffrances, c'était les pics de glucose. Et en fonction des personnes, en fonction de notre corps, les pics de glucose peuvent provoquer plein de choses différentes. Mais dans tous les cas, si on apprend à lisser sa courbe, ça va mieux. Donc moi, je me suis plongée dans les études scientifiques. Et maintenant, je partage ce que j'ai découvert, parce que ça a complètement changé ma vie.
Et justement, dans vos découvertes, quels aliments ont provoqué le plus gros pic de glycémie?
Des trucs étonnants, je crois.
Ouais, déjà, les aliments sucrés du petit-déjeuner, donc granola, muesli, céréales, on pense que c'est bon pour nous.
Adieu la crêpe au Nutella, j'imagine.
Alors, en fait, non, pas adieu, parce que maintenant, quand je mange une crêpe au Nutella, c'est soit après un repas, soit après du vinaigre, soit avant de faire du sport. J'ai développé, en fait, des conseils et des méthodes pour pouvoir toujours kiffer le Nutella que j'adore sans conséquence.
Mais ça veut dire que les céréales du matin, un peu mélangées, tout ça qu'on trouve dans les supermarchés,
c'est le pire du pire. Pour moi, c'est le pire du pire.
Ouais, non, c'est pas top.
Ok.
C'est pas top. C'est un dessert, en fait.
D'accord, faut mais un dessert bien, quoi.
Ouais. Justement, Annabelle, vous avez écrit un livre, hein, Diabète et coups de fourchette, dans lequel il y a quelques douceurs quand même. Les desserts, c'est pas terminé à vie,
non,
même quand
terminé.
On est diabétique et qu'on fait attention à sa courbe de glycémie.
C'est ça, il faut juste redimensionner les choses. C'est-à-dire que, Jessie le disait très très justement, en fait, c'est comme si on avait 2 litres d'eau qu'on doit faire passer par une serrure. Comment on va y arriver ? On va y arriver, mais il faut trouver des solutions pour y arriver. Et par exemple, moi, j'adore la glace. J'adore
et vous avez une recette, je crois.
J'ai une super recette qui est bête comme pas possible. On prend un fruit qu'on congèle ou on achète du fruit congelé.
Moi, j'aime les framboises. Alors, prenons les framboises.
C'est un super exemple, les framboises. On prend des framboises. Si on en trouve épépinées, c'est encore mieux, mais ça arrive jamais. Donc, c'est pas grave. Mais on prend des framboises, par exemple, 450 grammes de framboises qu'on mixe avec 20 centilitres d'eau. Ouais. Un jus de citron pour donner un petit coup de peps, et voilà, ça fait de la glace. Mais il faut les mixer surgelés, parce que ça vous fait un sorbet minute sans sucre ajouté autre que celui du fruit, et c'est hyper bon.
Ah, génial. Vous le validez, ce sorbet, Jessie ?
Bah oui, je valide, et je dirais même que le meilleur moment pour manger ce sorbet, ce serait après un repas, par exemple. Ah, parce que si on mange quelque chose de sucré, même des fruits sur un estomac vide, ça provoque un beaucoup plus gros pic.
Donc, quand on veut manger sucré, on a entendu pendant des années avec Mélanie Gomez, le fruit, il faut le manger à 17h. Alors, c'est pas vrai, ça ?
Ah, c'est dur, 17h.
Bah, en fait, non, parce que d'un point de vue glycémique, il vaut mieux manger les fruits en fin de repas.
Vous nous avez parlé donc de l'importance de lisser cette courbe de glycémie. On va encore détailler les choses dans un instant, mais vous avez parlé des effets à court terme, c'est-à-dire à court terme l'acné, enfin les problèmes de fertilité, mais à long terme sur le vieillissement, par exemple, ça m'intéresse. En quoi ça me fait vieillir ces pics de glycémie?
En fait, à chaque fois qu'il y a un pic de glucose dans votre corps, le glucose s'éparpille comme des enfants dans la cour de récréation. Et dès que le glucose heurte une autre molécule, il fait ce qui s'appelle la glycation. Et la glycation, c'est le vieillissement. Quand on met un bout de pain dans le toaster et qui devient marron, ça c'est la glycation. Et dans votre corps, depuis le moment où vous êtes né, vous toastez, et quand vous avez fini de toaster ou de cuire, vous allez mourir. Voilà, en gros. Et le plus de pics de glucose on a, le plus rapidement on toaste, le plus rapidement on vit.
Jessie, tout à l'heure, ouais, c'est dingue. Vous parliez tout à l'heure des méfaits que ça peut avoir, hein, si on a des petits troubles mentaux, des petits problèmes de dépression, évidemment, ça complique les choses, mais je crois que ça peut aussi favoriser la maladie d'Alzheimer.
Ouais,
comment ça peut être lié, ça?
Bah, deux choses. Donc, premièrement, les pics de glucose créent de l'inflammation dans le corps. Et l'inflammation, c'est la base de la plupart des maladies chroniques, dont la maladie d'Alzheimer. Deuxièmement, vos neurones utilisent également le glucose pour l'énergie et ils sont extrêmement sensibles, vos neurones, au glucose. Donc, quand il y a des pics de glucose, ça va créer du stress dans vos neurones. Et ce stress devient un stress oxydatif qui, justement, peut découler dans la maladie d'Alzheimer.
Eh bien, c'est compris. Merci beaucoup. Vous restez toutes les deux avec nous. On n'en a pas fini avec notre sujet de ce matin. Comment peut-on agir très concrètement dans notre vie quotidienne sur notre courbe glycémique? On va vous détailler la méthode dans un instant. Et ce n'est pas un régime. On ne vous dira pas non plus de renoncer aux aliments que vous aimez. Néanmoins, il faut connaître quelques règles, comme manger les aliments dans le bon ordre, modifier peut-être aussi votre petit déjeuner. Bref, on va tout vous expliquer. Alors, restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Notre question du jour, la voici. Faut-il faire la guerre au sucre dans notre assiette pour perdre nos kilos en trop et surtout pour être en meilleure santé? On vous en parle avec Jessie Inchospé. Je rappelle que vous êtes biochimiste et chercheuse en nutrition. Avec nous également Annabelle Chakmes, journaliste culinaire. Alors, on va voir dans cette partie comment justement la lisser, hein, très concrètement, cette courbe de glycémie et donc éviter les pics et les chutes qui, on l'a vu, sont très mauvaises pour notre santé. Annabelle, je crois que vos aliments chouchous pour cela, ce sont les fibres. Pourquoi elles ont un effet sur notre taux de sucre dans le sang? Et rappelez-nous dans quoi il y a des fibres quand même.
Alors, il y a des fibres dans les légumes, dans la salade surtout. Et en fait, les fibres, c'est important parce que ça ralentit l'absorption des sucres dans le sang. Et du coup, ça va mettre un frein. La montée sera moins violente.
Donc un baba au rhum enrobé dans une feuille de scarole, ça passe mieux, non?
Un demi-baba au rhum.
Ouais, dis oui en plus.
Un demi-baba au rhum dans une feuille de scarole, ça passe mieux. Le baba entier, c'est un peu beaucoup. Mais oui.
Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler, Jessie, parce que moi j'ai l'impression de faire n'importe quoi depuis des années, comment faut manger dans le bon ordre, justement pour limiter les inflammations de glycémie?
Ouais, alors les études nous montrent qu'un repas peut avoir un impact complètement différent sur le glucose en fonction de l'ordre dans lequel on mange ses aliments. Donc le bon ordre, qui réduit le pic de glucose par 75% quand même, c'est légumes en premier, protéines et graisses en deuxième, féculents et sucre en dernier. Si on fait ça, on ne change rien de ce qu'on mange, on change juste comment on mange. on réduit l'inflammation, on réduit la prise de poids, il y a moins de conséquences physiques et mentales, mais on n'a pas changé ce qu'on mange.
On a Sylvie sur Instagram qui nous dit, elle a entendu ce qu'on disait juste avant, on nous dit de ne pas manger de fruits en fin de repas, et là vous dites le contraire. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on dit sur le fruit à la fin du repas?
J'ai bien regardé parce que c'était justement une question qu'on me posait beaucoup. Donc ce concept qu'il ne faut pas manger des fruits en fin de repas remonte à la Renaissance. Et c'est un docteur qui a dit, si on mange des fruits en fin de repas, ça va putréfier dans l'estomac et créer des vapeurs et tout. En fait, c'est pas du tout scientifiquement validé. Donc, en gros, je pense qu'on peut ignorer parce que la science maintenant nous montre que c'est mieux en fin, les sucres.
Et il s'en est passé des choses depuis la Renaissance. Jessie, on a dit, c'est surtout pour être en bonne santé, c'est pas forcément un régime. Malgré tout, si on veut perdre du poids, est-ce que ça va marcher si on suit vos préceptes et en combien de temps?
Oui, alors, une des conséquences de lisser sa courbe de glycémie est très souvent de perdre du poids. Mais comme vous l'avez dit, c'est pas vraiment un régime, c'est une question de remettre sa biologie dans un bon état. En interne, ça va mieux, on a plus d'énergie, moins de fringales, on se sent mieux, la peau va mieux. Naturellement, oui, on perd du poids, c'est ce que les gens me disent. Mais vraiment, on part de la santé et la perte du poids n'est qu'une conséquence.
Et moins de rides en plus. Alors bon,
ouais, alors
Anna,
ça, c'est
Annabelle,
bien.
On a vu que les féculents étaient l'une des sources importantes de glucose. Est-ce qu'on peut néanmoins continuer à en manger alors quand on est diabétique et les autres aussi d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des féculents que vous préférez à d'autres en termes de pic de glucose?
Alors moi, j'essaye toujours d'en prendre avec des fibres additionnelles, c'est-à-dire par exemple des pâtes complètes quand j'en mange. Le riz, c'est... Mais alors,
C'est mieux le riz ou les pâtes? J'ai l'impression que vous n'aimez pas le riz. Hein.
Le riz, non. Alors, ce qui explique très bien Jessie dans le livre, c'est que chaque métabolisme est indépendant. Pour moi, le riz, ça va être compliqué. Mais peut-être que pour toi ou pour vous, ça va être totalement différent. Sur mon organisme à moi... Ouais. Le riz, c'est pas cool.
Jessie, vous les mettez sur le même plan, tous les féculents là, parce que moi, j'adore les pâtes. Je peux en manger tous les jours, mais comment bien les manger alors?
En fait, ce qui est plus important, je pense, c'est ce que la science nous montre, c'est pas vraiment choisir le bon féculent, c'est plutôt manger une entrée à base de légumes avant.
Ah oui.
Ça, c'est un des conseils dans Glucose Révolution, dans le livre. On n'a pas besoin de complètement couper les féculents de notre alimentation, mais il faut les manger au bon moment.
Et si je mange des pâtes aux légumes, mais mélangées, ça marche pas
ça, c'est bien.
Des pâtes au brocoli.
Alors, tout est une histoire de contexte. Donc, le mieux, c'est de manger entrée à base des légumes, puis les pâtes. Ensuite, deuxième, le mieux, c'est manger les pâtes et les légumes ensemble. Et le pire, c'est de manger que les pâtes toutes seules.
Ah, mais vous voyez, par exemple, moi, il y avait une vraie problématique, parce que c'est un peu ma vie quand même, c'était de pouvoir manger un couscous sans qu'il ait un impact sur ma glycémie.
Et alors, couscous aux légumes ?
Ça a été un vrai sujet d'étude dans ma famille, pour moi-même, le couscous. Du coup, j'ai fait plusieurs essais de plein de... Ça a duré 6 mois, l'histoire, mais j'ai pas lâché. J'ai mangé une salade. Réussite a été manger une salade en entrée avec du vinaigre dans la salade, donc les deux en même temps, et de prendre une semoule complète avec en plus des légumes. Mais des légumes qu'avaient mijotés, donc c'était moins super bon, mais c'est passé crème. J'ai enlevé les pois chiches, j'ai enlevé les glucides additionnels qui n'étaient pas nécessaires, genre les petits raisins, tout ça, et bim, c'est passé.
Et pour moi, c'était les spaghettis. J'ai dû découvrir comment je mange des spaghettis sans pic de glucose.
Alors, il paraît que la cuisson est importante aussi pour...
La cuisson est beaucoup moins importante que ce que vous mangez avant. Donc en fait, je me suis fait une entrée, des épinards avec 2 œufs durs, et maintenant je mange ça, et ensuite je mange les spaghettis.
Et
ensuite, je marche un peu, je danse dans mon salon, et du coup, il n'y a pas de pic. Mais je kiffe toujours les spaghettis, ça me procure du plaisir, mais ça ne me cause pas de conséquences.
Ah, mais c'est un petit blocage sur les féculents, là, j'ai l'impression. Mais alors, justement, on a une question sur Instagram de Marie Kempsey qui dit: bonjour, quel est le meilleur repas pour manger des pâtes? Alors, elle précise sa recette, à l'huile d'olive saupoudrée de curcuma et d'un peu de poivre noir. Alors, je pense qu'elle demande si curcuma, est-ce que c'est mieux à midi, le soir?
Midi, le soir, ça n'a pas d'importance. Donc, l'important, Marie, c'est de te faire une entrée à base de légumes. Donc, ça peut être n'importe quoi, des tomates, des asperges, des artichauts, tout ce que tu veux, des carottes crues si t'as pas le temps.
Juste
tu
de la salade verte?
Oui, la salade verte, ça marche aussi. Tu te fais un petit verre d'eau avec du vinaigre, du cidre dedans.
Ça, c'est votre secret, le vinaigre.
C'est un des secrets. Ensuite, tu manges les pâtes et ensuite, bouge ton corps. Utilise tes muscles. Danse, fais ta lessive, je sais pas, fais ta vaisselle. Bouge ton corps pour que tes muscles absorbent du glucose quand il arrive dans ton sang.
Mais bouger pendant très longtemps ou...
5 minutes, 10 minutes.
Ouais, d'accord, on fait pas une séance de sport non plus après.
Vous pouvez si vous voulez, mais
je veux dire, c'est à chaque fois qu'on doit manger, qu'on veut manger des pâtes, on fait une séance de sport, on va pas se
sortir.
Non, 5-10
minutes.
C'est rigolo.
5-10 minutes de marche, c'est bien, d'accord. On danse. On se fait une playlist.
Et c'est quoi votre truc du vinaigre là?
Ça va savoir sur le vinaigre.
Alors le vinaigre, c'est magique parce que dans le vinaigre, il y a une molécule qui s'appelle l'acide acétique. L'acide acétique fait 2 choses. Numéro uno, l'acide acétique va ralentir le breakdown de l'amidon en glucose. Donc quand vous mangez des féculents, ils vont être digérés plus lentement et transformés en glucose plus lentement. Deuxièmement, l'acide acétique va dans vos muscles et dit à vos muscles d'absorber le glucose lorsqu'il arrive dans votre sang.
Du vinaigre de quoi d'ailleurs ?
Alors, ça peut être n'importe quoi. Moi, mon préféré, c'est le vinaigre de cidre.
Moi aussi.
Ouais, voilà. Mais balsamique, à base de. Enfin, n'importe quel vinaigre.
Quelle quantité ? À quel moment exactement ?
Une cuillère à soupe dans un grand verre d'eau ou une petite bouteille d'eau, voilà, que vous pouvez trimballer avec vous. Avant les repas, c'est le mieux.
D'accord, et ça va vraiment diminuer l'éventuel pic de glycémie qui pourrait avoir lieu
en fait,
après.
Par exemple, si c'est le milieu de l'après-midi, vous voulez manger un gâteau au chocolat, vous n'avez pas le temps de faire une salade avant, vous faites juste un petit drink au glucose, vous mangez le gâteau, mais ça aura 30% moins d'impact sur votre prise de poids, votre vieillissement, inflammation et tout.
C'est super facile. Je vais aller acheter du vinaigre.
Je vais boire un litre de vinaigre de cidre immédiatement.
Ouais, et mon petit coup de cœur vinaigre en ce moment, c'est une marque française qui s'appelle Archi qui est vraiment top.
C'est génial.
Ouais, ils sont top.
Génial.
Ah oui?
Ouais, canon parce qu'il y a la mère du vinaigre dans la bouteille et c'est vraiment la base, quoi.
D'accord, à mélanger avec de l'eau, on l'a compris. On a une question de Stéphanie sur Facebook. Elle dit, je ne mange pas de petit déjeuner. Est-ce que c'est un problème pour mon taux de glycémie, Jessie?
Ce n'est pas du tout un problème. En fait, il faut juste faire attention à comment est-ce qu'on arrête le jeûne. Donc, la première chose qu'on mange, que ce soit à 8h du matin ou à 14h, il faut que ce soit des fibres, en fait, idéalement, ou quelque chose de salé. Parce que si on mange du sucre en premier, sur un estomac vide, ça crée un énorme pic et on crée un roller coaster de fringales toute la journée. On a faim, on est fatigué, on a envie de sucre. Donc, c'est très important comment est-ce qu'on brise le jeûne, et j'en parle bien dans Glucose Révolution.
C'est quoi le bon petit déjeuner à la belle, alors, du coup?
Ben, moi, si je mange pas de petit déjeuner, c'est une catastrophe, hein.
Et donc, le repas de petit déjeuner qui sera bien dans cette
j'adore
méthode.
J'adore les œufs sur le plat. J'essaye de pas, enfin, je mange du pain un petit peu avec les œufs pour saucer, quoi. Mais j'aime bien, et c'est ce que préconise Jessie aussi dans le livre, des petits déjeuners peut-être plus salés. Mm-hmm. Savory breakfast.
Mais avec un peu de pain quand même. Mais quel genre de pain du coup?
Du pain complet. Ouais. Du pain complet, c'est super bon. Mais n'importe quel pain en fait, en vérité, si on le mâche bien et que c'est bien assimilé et que voilà.
Allez, un petit mot pour terminer sur les apéros. Il commence à faire beau. On a envie de faire des apéritifs. Évidemment, qui dit apéritif dit souvent un petit verre d'alcool, toujours avec modération. Quelle est votre approche vis-à-vis des boissons alcoolisées,
Jessie?
Alors
déjà, bon, il y a l'alcool, c'est pas bon pour le corps. Hein. On sait, je vais pas vous mentir. Mais avec dans modération. Les options alcooliques. Il vaut mieux boire du vin, du champagne ou des alcools durs avec par exemple vous voyez, de l'eau pétillante et du citron plutôt que des cocktails ou de la bière.
Ça sera très sucré quoi.
Voilà.
Donc,
et
vin,
la vodka, c'est pas moins sucré la vodka?
Mais la vodka, ça va aussi, vous pouvez, pas de problème.
Non mais j'ai toujours entendu dire que le champagne c'était pas terrible parce que trop sucré et tout.
Bah non, au final ça n'a pas d'impact sur la glycémie.
De toute façon c'est 2 verres par jour et pas tous les jours, c'est très important. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Et pour ceux qui voudraient encore davantage de conseils, je rappelle votre livre, Jessie, Faites votre glucose révolution chez Robert Laffont. Et enfin, si vous manquez d'imagination pour une cuisine savoureuse mais peu sucrée, il y a aussi le bouquin d'Annabelle, Diabète et coups de fourchette aux éditions Le Duc. Eh bien merci beaucoup. Alors Mélanie, maintenant on va basculer vers la séquence tendance de Bienfait pour vous, une séquence tonalité très estivale, vous allez l'entendre. Sophie Braffman va nous présenter les nouveautés du côté des maillots de bain. Et oui, l'été approche, il est temps d'y penser. Et puis il y aura aussi Benjamin Lévesque avec sa chronique beauté. Lui aussi, il s'est mis en mode estival puisqu'il a déniché les dernières nouveautés sur le marché des crèmes solaires. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous. Vous êtes de retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on tente de vous faciliter le quotidien tous les matins.
Pourquoi vous riez ?
Je ris, Mélanie, de ce que vous m'avez dit pendant la pause par rapport au sucre dont on vient de parler, puisque maintenant, c'est notre partie tendance qui commence et on va parler de crème avec vous, Benjamin Lévesque. Grâce à vous, je crois que le crémage de toute la famille sur la plage ne sera plus jamais une corvée.
Bah oui, en spray, en baume, en stick, je pense qu'on peut dire, les filles, que les crèmes solaires qui collent, c'est du passé. Voilà, donc je vais vous présenter plein de nouvelles crèmes que vous allez adorer vous tartiner sur le corps.
Merci. Ok, Benjamin, on a hâte d'en savoir plus. Mais avant de se protéger du soleil, on va commencer par choisir, par faire ce choix cornélien qu'on doit faire chaque été. Et c'est avec vous qu'on va le faire, Sophie Braffman. Bonjour.
Oh là là, bonjour Mélanie. Alors, bonjour Julia.
Alors quel maillot cet été?
Je vous brûlais d'impatience savoir quel maillot vous allez porter. Et moi donc. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cet été, le maillot va se porter sur la plage, mais pas que sur la plage. Il va aussi se porter en ville, puisqu'on va le porter sous forme de body. Pour celles qui aiment les décolletés, suivez mon regard. Eh bien, vous pourrez le porter en body. Donc, il faut faudra bien évidemment le choisir. Alors, va-t-il être échancré, sexy ou intégral? Bientôt, je vais vous donner toutes les tendances maillot.
Mais dites-moi, il va forcément être rétro parce que j'ai l'impression que c'est très à la mode.
Alors, très à la mode, Julia. Effectivement, le rétro est revisité avec un imprimé qu'on pensait un peu ringard, hein, tombé en désuétude. C'est l'imprimé Le Carreau Vichy.
Ah oui, j'en ai vu partout, c'est
le
vrai.
Le Carreau Vichy, aussi, bébé. Hein, ouais. Eh bien oui,
comme Brigitte Bardot.
Oh, comme Brigitte Bardot, son nez.
Coquillage et crustacés.
C'est votre génération, c'est... ça, les filles. C'est...
Mais il est désagréable, on ne mettra pas la crème, Benjamin, si vous dites ça. Alors, donc, ce maillot imprimé Vichy n'aura jamais été aussi à la mode, hein, un peu comme en politique d'ailleurs, on assiste à une droitisation du maillot, c'est important de le préciser. Alors, lors des défilés, on a vu ce maillot Vichy chez Jacquemus, Céline, à des prix très élevés, bien évidemment. Mais la bonne nouvelle, c'est que je vous ai concocté un shopping beaucoup moins cher. Ah. Alors, vous allez le trouver en deux pièces, Mélanie, chez Guess, rose et blanc, donc là, c'est vraiment l'iconique.
Pour moi, vous allez choisir
Vichy.
Rose et blanc.
Et surtout un deux pièces.
Et un deux pièces bandeau, le haut, vous voyez. Donc c'est quand
ça,
même.
C'est pas pour les petits seins. Ça...
Oh non, ça va. Avec une petite culotte nouée sur les hanches. Et c'est très 60s et 50 euros l'ensemble. Donc on n'a pas vraiment envie de s'en priver. On l'a également chez Banana Moon.
Alors,
pour Julia. Alors là, on est sur du noir et blanc.
Ah, j'aime bien.
Avec un top noué autour. Du coup, c'est très babydoll. C'est peut-être pour ça que ça vous plaît. C'est un côté très 60.
Ah oui, j'aime bien.
Voilà, c'est très joli. Et enfin, un coup de cœur pour celles qui préfèrent les une pièce. Moi, j'aime bien les
une pièce. Moi, je préfère les une pièce. Ouais, ça cache la misère.
Bah, c'est gainant. Voilà, c'est gainant. Vous avez tout dit.
Moi,
c'est
j'ai
pour
pas
ça.
De misère. Alors, et c'est du deux pièces. Alors,
pour celles qui sont comme nous et ont envie de cacher un peu la misère, ce une pièce magnifique. Alors, il est chez Luz. C'est une collaboration avec la marque Carrel. Donc, on est dans une collaboration très française. Il est hyper chic. Et vous avez du Vichy de deux couleurs différentes, rose et blanc pour le haut, rouge et blanc pour le bas. Voilà. Ou en une pièce complètement noir et blanc. Alors, la très bonne nouvelle, c'est qu'en plus, il est fabriqué en tissu recyclé. À partir de déchets de filets de pêche trouvés dans l'océan.
Magnifique,
c'est pas magnifique,
c'est bien,
ça.
Ah oui, c'est
voilà,
clair.
Beau pour la planète et il galbe en plus votre fessier. Si vous êtes plus années 70 que 60, vous aimez les fleurs, je le sens.
Ouais, Julia,
je
suis
un peu psyché, moi.
Ah là là, je suis sûre que nos auditrices sont un peu néo-romantiques ou psychédéliques comme Janis Joplin. Évidemment, on a envie de ces modèles imprimés sous acide et ce côté très psychédélique. Là aussi, on les a beaucoup vus sur les podiums, chez Copernic, chez Pucci. Mais très bonne nouvelle, vous les aurez également à petit prix et notamment chez Etam. Ou alors là, il y en a deux magnifiques. Je vais les poster sur nos réseaux sociaux.
S'il vous plaît.
On l'a en deux pièces, alors avec une brassière un peu sportive, parce que bon, il y a aussi cette tendance sportswear qui revient aussi sur les plages. Et puis surtout, c'est très maintenant. Si vous avez pas mal de poitrine, la brassière, ça peut être intéressant.
Quelle couleur ?
Alors, dans des tons marron, ça paraît un peu bizarre comme
ça. C'est joli.
Mais je vous garantis que c'est très joli. Et vous l'avez en une pièce aussi, alors un imprimé plus pastel. On est vraiment sur quelque chose de très psychédélique là aussi, mais c'est très joli pour une ambiance un peu néo-Woodstock et pour prolonger cette ambiance après le bain, puisqu'on le met évidemment avec un jean, c'est parfait pour les modeuses.
Bon, et si on est un petit peu plus classique que ça, Sophie, qu'est-ce que vous avez pour nous ?
Je sens que vous avez envie de choses beaucoup plus classiques. Alors, on va suivre cette tendance 70 avec des fleurs, plus classiques les fleurs, et ça vous allez apprécier. On est sur des grosses fleurs, alors des très grosses fleurs qui vont se porter en overall, donc néo-romantique, hippie chic. Vous avez ça chez CEA. Ce qui est très joli, c'est d'avoir par exemple un petit détail de la fleur qui revient dans le chapeau de paille.
Oh,
et hop, on retrouve
joli.
L'imprimé fleuri. Pareil, je vais vous le poster. Et on a un imprimé pivoine magnifique. Alors, auprès d'une marque intéressante qui s'appelle Almé. C'est très joli. Et ils vont jusqu'au 54. Donc, avec un côté extrêmement maintenant, bien pour la poitrine aussi.
Donc, pas mal d'imprimés forts et de l'audace cette saison, c'est ça ?
Oui, beaucoup d'audace. Alors, dans cette tendance très 70s, je me rappelle avoir parlé ici de la culotte en crochet qui vous avait beaucoup
plu.
Eh bien, mesdames, le maillot en crochet, magnifique. Alors là, c'est chez Rose Carmine, un sublime pour la sortie de plage. Je vous conseille de ne pas vous baigner avec. Hein. C'est vraiment un maillot bijou, un maillot ornement, un maillot d'apparat, exactement, Mélanie. Donc, c'est très beau. On a toujours cette tendance du noir qui est très forte avec le une pièce noire. Alors, attention pour moi à ne pas mettre des bandeaux trop stretch si on va sur le deux pièces ou des matières scintillantes parce qu'il y a un côté un peu SM hein, quand on est sur le maillot noir ou alors on est une maîtresse femme et dans ce cas-là, bah, on y va complètement.
On peut être une maîtresse femme en maillot.
On assume complètement. Si on est plus bourgeoise traditionnelle, on va porter ce une pièce noire parce qu'il est très chic. Il occupe le top du podium depuis quelques saisons. Et là, il y a un soupçon de fantaisie avec, par exemple, dans la découpe, une épaule complètement dénudée, donc de l'asymétrique. C'est très élégant. Et enfin, il y a de l'entrelacé. Bon, alors, vous voyez ce que je veux dire ?
Non, c'est horrible, ça fait saucisson.
Bah voilà, je ne sais pas le dire.
Ça fait bondage.
Ça fait bondage complètement. Et puis ça saucissonne le bourrelet. Donc, personnellement, je privilégierais un maillot noir plutôt simple. Et je vais vous poster deux maillots disco, enfin, dernière tendance, chez Almadeia. Absolument magnifique pour danser.
On a oublié les garçons, on les fera la prochaine fois.
Si vous voulez, je vous fais des. La prochaine fois.
Moi, je veux savoir.
Voilà, ça c'est ma préférée, c'est les années 80. Voilà.
Merci beaucoup Sophie pour tous ces conseils. Pour les messieurs, on reviendra sur une prochaine chronique évidemment.
Avec
pour
plaisir.
Les maillots de l'été. On n'a plus qu'à choisir en tout cas et à plonger. Que ce soit à la plage, en terrasse ou en balade, on s'expose de plus en plus en ce moment aux rayons du soleil. Et pour profiter du soleil en toute sécurité, ben, il faut évidemment penser à se tartiner de crème solaire. Benjamin, vous êtes venu aujourd'hui avec des crèmes solaires dernière génération.
Eh oui, parce que la crème solaire n'est pas une option quand on s'expose au soleil. D'une part parce que un coup de soleil c'est une brûlure, alors pas au troisième degré mais c'est quand même une brûlure. Et puis dans les rayons du soleil, vous avez à la fois des UVA, hein, que eux qui sont responsables du vieillissement de la peau, vous savez toutes les taches aussi qui sont dues au soleil, et les UVB qui sont encore plus dangereux, hein, eux qui vont diminuer en fait les défenses immunitaires de la peau et provoquer parfois des cancers cutanés. Mais il existe aussi un nouvel ennemi de la peau, c'est la lumière bleue.
Mais c'est pas dans les écrans ça, Benjamin ?
Alors effectivement, on en a beaucoup parlé de cette lumière bleue dans les écrans qui abîment la rétine de l'œil, vous savez, qui favoriserait même la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Mais il y en a en fait beaucoup plus de cette lumière bleue dans les rayons du soleil. On dit qu'il faudrait passer 3 mois sur son smartphone non-stop pour recevoir l'équivalent de la lumière bleue émise pendant 1 heure. Au soleil, et ça a des effets délétères sur la peau, comme l'explique Xavier Ormancet, qui est le directeur de la recherche et développement de la marque Avène.
Ce qui va se passer, c'est que c'est une lumière qui est énergétique, qui va pénétrer assez profondément dans la peau, et en pénétrant dans la peau, elle va générer ce qu'on appelle des radicaux libres. Les radicaux libres, c'est un petit peu comme la rouille de la peau, si vous voulez. Et cette oxydation va générer différents effets. Alors ça peut être des taches pigmentaires, hein, les fameuses taches solaires, les taches de vieillesse. Et elle va aussi accélérer la formation des rides, la perte de fermeté. Donc tout ce qui va être dégradation finalement des tissus de la peau avec le temps.
Et c'est pourquoi justement on retrouve maintenant des nouvelles générations de crèmes solaires qui protègent aussi de la lumière bleue. C'est le cas par exemple chez Avène. Alors je sais que c'est la marque préférée de Sophie. Vous avez en fait à l'intérieur un filtre anti-lumière bleue. Alors pour la petite histoire, c'était une molécule qui a été étudiée à la base pour un médicament anti-migraineux. Et en fait, les chercheurs se sont finalement rendu compte qu'ils faisaient barrière face à la lumière bleue. Donc ils en ont mis dedans.
C'est génial, mais moi j'aime pas. Vous savez, c'est surtout quand la crème solaire colle à la peau. C'est pas du tout. Ah, c'est horrible. Avec le sable, tout ça, vous avez quoi pour moi ?
Alors, vous avez bien évidemment tous les sprays, les huiles qui sont beaucoup plus agréables au toucher. Et alors, je voulais vous faire essayer la marque Les Petits Prodiges. Alors, tenez Mélanie, je vous en mets sur la peau, la paume de la main. Alors, c'est une crème solaire qui vraiment...
C'est fluide, hein, ouais.
Voilà, c'est sans traces blanches. Donc, c'est beaucoup plus agréable au toucher. J'ai aussi trouvé une crème, alors sous forme de...
Très bon. Ah, ça sent bon, là.
Ça sent bon, hein. Voilà, je vous ai aussi trouvé une crème sous forme de mousse. Oh. Tenez, c'est la marque Face Theory qui la fabrique.
On va peut-être pas mettre toutes les essayer, mais...
Oh, plongez toutes vos doigts dedans. C'est très léger et vous allez voir, on a un petit peu l'impression d'appliquer une crème fouettée.
Ah, la mousse, c'est pas mal, hein.
C'est pas mal, hein.
Faites voir la mousse, j'ai jamais essayé, moi.
On dirait de la crème fraîche qu'on se met
sur
le corps.
Voilà, la crème fouettée. Et puis sinon, vous avez chez Isdin. Alors, Isdin, c'est le numéro 1 en Espagne et au Portugal. Alors, vous avez cette lotion solaire, alors qui n'aura pas cet effet au collant, parce que vous avez, c'est en deux phases. Vous avez l'huile en dessous qui est bleue, et puis l'eau au-dessus. Ils ont rajouté beaucoup plus d'eau, en fait, qui va limiter cet effet collant. Donc, il faut bien secouer 5 secondes, et ensuite, vous pouvez l'appliquer.
Benjamin, moi, j'ai l'habitude d'être comme maquillée quand même en été. Ça fait pas beaucoup de couches, là, avec tout ça?
Ça fait beaucoup de couches, mais justement, il existe maintenant pour ça des crèmes solaires teintées. Hein, ça fait 2 en 1. Vous en avez par exemple chez Aquarelle. Alors, ça permet de protéger sa peau tout en gardant un teint unifié. Hein, Mélanie, vous verrez.
Vous avez prévu d'aller bronzer, Julia, après, parce qu'elle est en train de se tartiner de la tête aux pieds de crème solaire. C'est gratuit.
Ah, c'est ça. Ça masque les imperfections. Et alors, le petit conseil, moi, c'est de prendre vraiment 2 teintes différentes. Une teinte assez claire pour le début de l'été, parce que généralement, vous n'êtes pas hyper bronzé. Et puis, une autre un peu plus dorée pour la fin de l'été, où je l'espère, vous aurez pris des couleurs.
Évidemment. Et pour les enfants, est-ce que vous avez quelque chose ?
Y a pitié, oui.
Ah oui, je vous ai trouvé, tenez, Mélanie, je sais que ça va vous plaire, des sticks solaires.
Ça plaira surtout à ma fille.
2 couleurs. Ouh, vous en avez un mauve et un bleu.
C'est génial, ça.
Alors, à l'origine, c'est ciblé pour les sportifs. Hein. C'est la marque Les Laboratoires Biarritz qui les fabrique.
Je vais avoir un petit schtroumpf sur la plage. Ça fait bleu.
Voilà. Donc, Les Laboratoires Biarritz. Et à Biarritz, qu'est-ce qu'on retrouve ? Des surfeurs. Donc, c'était fait à la base pour les sportifs. Donc, des petits tubes comme ça qui sont alors principalement pour le visage, vu la taille du tube, ou alors pour protéger une petite zone comme une cicatrice. Alors, c'est très pratique si vous avez des enfants parce que ça permet de transformer.
C'est ludique, oui.
Voilà, ça devient un jeu, en fait. On se
fait
dit,
des peintures d'Indien. Voilà, on fait des peintures d'Indien.
Et puis, l'avantage de la couleur, c'est que l'on voit là où on a mis de la crème. Et si jamais il faut en remettre, par exemple, si au bout d'une heure, le front n'est plus bleu, et ben ça veut dire qu'il faut en remettre. Et puis, il n'y a rien de chimique dedans. Le bleu, on l'obtient avec un mélange d'argile. Et puis, le mauve, c'est un mélange de minéraux.
Et pour finir, Benjamin, vous nous aviez déjà parlé des shampoings solides. Est-ce qu'il existe des crèmes solaires solides ?
Oui, il y a des crèmes solaires sans eau, donc qui ont un aspect solide. Vous en avez, par exemple, chez la marque Aquarelle. Donc, c'est dans un petit pot en aluminium, donc entièrement recyclable. Donc, ce sont des mêmes choses chez Lame Life. Vous avez des petits sticks comme ça à lèvres, parce que justement, ce n'est pas pour tout le corps. C'est pour des petites zones. Les lèvres, on les oublie trop souvent, mais on peut prendre un coup de soleil sur les lèvres.
Oh,
le souhaite pas. Et puis, ça peut aussi s'appliquer sur des petites zones, vous savez. C'est vraiment en complément. Vous mettez votre crème solaire classique et puis ensuite vous en mettez sur le nez ou une cicatrice ou un grain de beauté par exemple.
Eh bien merci beaucoup Benjamin pour ces astuces et toutes ces nouveautés qui vont peut-être aider les gens à être plus vigilants, notamment face aux risques solaires. On adore hein, quand il est de retour le soleil, mais faites attention, c'est vraiment important. Eh bien voilà, j'espère que vous avez passé une heure agréable en notre compagnie. Nous serons de retour demain dès 11h et Mélanie, quel sera notre grand sujet du jour?
Eh bien Julia, demain on va parler santé. Si vous êtes, je sais pas, toujours enrhumé, fatigué, un peu fébrile, c'est peut-être parce que votre système immunitaire vous joue des tours ou a tout simplement un petit coup de mou. Eh bien dans Bienfait pour vous, on va voir comment booster son immunité grâce à l'alimentation, l'activité physique ou encore même l'oligothérapie. On détaillera tout ça avec nos invités demain.
Mais pour le moment, place à l'info sur Europe 1, car à suivre, c'est Europe Midi avec vous Romain Desarbres. Quel est le programme Romain?
Le programme d'Europe Midi, on va parler de beaucoup de sujets, notamment du prix de l'essence. Hein. Il remonte, il repart à la hausse, près de 2 euros le litre de gasoil, le sans-plomb 95 grimpe également, le sans-plomb 98 aussi. Comment est-ce que vous vous organisez, si tant est que vous puissiez vous organiser? Vous nous le dites, vous appelez le 39-21, on sera également avec Jean-Baptiste Moreau, député La République En Marche, et Rachid Temal, qui est sénateur socialiste du Val-d'Oise.
Eh bien merci beaucoup Romain, à tout de suite.
À tout de suite.